C'est 23.
L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
À la météo aujourd'hui, c'est une alternance de soleil et de nuages, des nappes de brouillard qui vont se dissiper ce matin. Et donc, ça va nous laisser une journée relativement ensoleillée aujourd'hui parce que il va faire 26 degrés, humidex à 31, mais le ciel va se dégager dans le courant de la journée. Partiellement nuageux pour ce soir et cette nuit, il va faire 21 degrés. Et pour demain samedi, c'est la belle journée du week-end avec des nuages, alternance soleil-nuages le matin, mais un beau mercure à 29 degrés. Ça sera très confortable, humidex à 37. Et pour dimanche, ben là, c'est le retour des averses avec 22 degrés. Ça va être quand même humide, mais confortable à l'extérieur. Et lundi, c'est du soleil avec 18 pour célébrer, n'est-ce pas, Dollar des Ormeaux ou encore la Reine ou Saint-Donatien, c'est selon. Il fait 9 degrés en ce moment à Montréal. Comme on le fait à tous les matins, on va se rendre en Ukraine immédiatement, joindre Tetiana Ogarkova, qui est journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Bonjour, Tetiana.
Bonjour.
Alors, parlons un peu de la situation dans le Donbass. Il y a plusieurs civils blessés et morts là-bas. Ça continue d'être un endroit extrêmement chaud ce matin, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Hier, il y avait au moins 12 morts dans la région de Lugansk, à côté de Severodonetsk, la ville qui est une capitale inofficielle de la région. Il y a des attaques incessantes de l'armée russe qui continue à attaquer, à essayer en fait de prendre d'assaut la ville de Severodonetsk. Ce matin, nous avons reçu l'information de l'état-major ukrainien que les tentatives ont échoué une fois de plus, mais bien sûr, ils ont entraîné encore plus de destruction dans la région Severodonetsk, mais aussi Roubijne. Roubijne, c'est une ville à côté, Popasna. Roubijne commence à ressembler beaucoup à Mariupol parce que c'est toujours cette technique de tout détruire sur leur chemin. En fait, l'armée russe procède par des bombardements très lourds. Ils empêchent aussi les évacuations. On nous a appris hier que les bus qui essayent d'évacuer les gens de Severodonetsk, ce sont les bus blindés, puisque autrement l'armée russe tire sur eux. La situation, en gros, est très tendue, mais pour l'instant, heureusement, il n'y a pas d'avancée significative de l'armée russe dans cette direction.
Ouais, mais on entend de plus en plus, des rapports comme quoi les Russes tirent sur des civils, comme vous venez de le mentionner, mais au-delà du cadre de la guerre, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Depuis presque 3 mois, on voit que le nombre de civils qui ont perdu leur vie dans cette guerre s'élève à des chiffres extrêmement élevés. On intercepte aussi des dialogues de soldats russes avec leurs familles en Russie. On voit que des confirmations, en fait, qu'ils se vengent aussi sur les civils, surtout quand ils ont des échecs militaires. Malheureusement, pour Mariupol seulement, on ne connaît pas les chiffres exacts, mais selon l'adjoint de maire, ça ne peut pas être moins que 20 000 civils qui ont perdu leur vie lors de combats qui ont duré plus de 2 mois. Oui. Donc Mariupol est presque aujourd'hui dans les mains des Russes, mais on parle de tombes massives, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens, de civils malheureusement, qui ont perdu leur vie.
Bon, et dans la région de Kharkiv, on commence à apprendre aussi de nouveaux crimes après la libération de plusieurs villages, n'est-ce pas?
Oui, donc il y avait cette contre-offensive ukrainienne qui a presque abouti, donc je dis presque parce qu'il y a toujours des essais de l'armée russe de contre-attaquer vraiment quelques kilomètres de la frontière avec la Russie, parce que Kharkiv, c'est à côté de la frontière.
Ouais.
Malheureusement, comme on s'attendait à ça, il y a des reporters qui sont partis sur place et il y a, par exemple, hier, l'ombudsman ukrainien Denisova qui nous a fait un communiqué très atroce sur des viols, notamment 56 cas reportés hier. Donc les gens ont porté plainte. Et malheureusement, il y a les enfants. Il y a un triplé de 9 ans, donc 3 filles de 3 ans qui ont été violées devant les yeux de leur mère. Il y a aussi un garçon d'un an seulement qui a été violé et qui n'a pas survécu. Il y a une fille de 2 ans qui a été violée à 2 reprises aussi sous les yeux de sa mère qui a heureusement survécu. Mais ce sont des choses qui nous laissent sans voix justement. Donc c'est une information officielle et qui bien sûr qui est dévastatrice pour les gens, pour les civils. Donc, on ne peut pas pardonner ni oublier les crimes des soldats russes qui ont été commis dans les régions de Kharkiv.
Bon, et quelle est la situation à Mariupol? Vous y avez fait référence tout à l'heure, c'est presque aux mains des Russes, mais pas tout à fait.
Oui, donc hier, ce qui était officiel, on a bien vu le visage de Kalina. Kalina, c'est le commandant de un des commandants de bataillon Azov. Donc c'était une vidéo filmée encore à l'intérieur d'Azovstal. Ouais. Il nous a dit que plusieurs militaires ont déjà quitté Azovstal et ont été évacués. Par contre, les chefs, ils restent encore sur place. Ils vont être évacués dans les jours qui viennent. Donc ils sont encore là. Il dit que l'opération est extrêmement difficile. Donc, il nous a appelé de garder le silence et de pas spéculer là-dessus. Donc, tout est en cours. Nous, ici, les Ukrainiens qui sont en Ukraine, donc bien sûr, on prie que cette opération ait des succès, qu'ils puissent retourner, échanger, en fait, être échangés contre les soldats russes dans les semaines, dans les jours et les semaines qui viennent.
Tetiana Ogarkova, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois ce matin. Restez en sécurité. Merci d'avoir été là.
Merci.
Au revoir. Tetiana Ogarkova est journaliste responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media. Eh bien, après 3 ans de tergiversation, le gouvernement Trudeau a finalement statué sur l'entreprise Huawei, qui est une entreprise chinoise, comme vous le savez, qui fournit du matériel, entre autres, pour le déploiement du réseau 5G au Canada. On sait que le 5G, c'est l'avenir de la télécommunication sans fil. Et donc, ça va permettre des échanges de données beaucoup plus rapides que ce qu'on connaît en ce moment avec le 4G. Or, Huawei a une expertise très, très importante et fournit des équipements pour installer des réseaux 5G un peu partout à travers le monde. Et là, ben, on craignait tous les pays, en fait, occidentaux craignent l'entrée en masse, n'est-ce pas, de Huawei dans ce marché-là, parce que ben, Huawei, c'est une entreprise qui est extrêmement proche du gouvernement chinois. Les Chinois sont proches des Russes, sont pas des amis non plus nécessairement sur le plan, en tout cas stratégique, des États-Unis, du Canada et des pays occidentaux. Alors après 3 ans de tergiversation, le gouvernement a finalement décidé de bannir le géant chinois des télécommunications Huawei du déploiement du réseau 5G au pays. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une du journal La Presse. Et donc le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, et le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, hier ont annoncé en conférence de presse que dorénavant, ben, il sera interdit de déployer des appareils 5G pour justement créer ce réseau-là par les compagnies chez nous. Alors aujourd'hui, notre gouvernement annonce son intention d'interdire l'utilisation des composants et des services Huawei et de ZTE dans les systèmes de télécommunication au Canada. C'est ce qu'a dit M. Champagne hier en conférence de presse. Les entreprises qui utilisent déjà des composants 5G de Huawei vont devoir cesser de le faire et les retirer au plus tard le 28 juin 2024. Alors là, la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point Huawei est-elle présente en ce moment dans les équipements justement qui sont déployés au pays? Eh bien, on répond à cette question encore une fois dans la presse. On dit que l'entreprise a ouvert ses premiers bureaux au pays en 2008 et emploie aujourd'hui quelques 1500 personnes. On est notamment présent dans la recherche chez nous parce qu'on finance, entre autres, une chaire de recherche à l'École polytechnique de Montréal depuis 2017. Et on s'est associé aussi au gouvernement de l'Ontario pour créer un laboratoire doté de 300 millions de dollars sur 5 ans à partir de 2016 pour créer justement ces fameux appareils 5G. Alors, il y a des importants fournisseurs au pays. Là, il y a Bell, il y a TELUS qui ont recours à de l'équipement de Huawei. Et selon le Globe and Mail, le Canada représente 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, c'est très important comme implication. C'est que c'est une entreprise qui a des visées, bien sûr, internationales. Est-ce qu'il y a des risques pour la sécurité publique, pour justement la transmission des données au Canada si jamais il devrait avoir un conflit ouvert avec un bloc qui se dessine entre la Russie, l'ex-URSS, la Chine et l'Iran même qui pourrait entrer dans ce même bloc. Alors, donc on a répondu à cette question-là qui était sur la glace là depuis un certain temps, surtout que on se souvient de ce qui s'est passé, le conflit avec la Chine au cours des derniers mois, ça avait retardé cette décision et là, ben, ça a été clairement déterminé lors de cette conférence de presse hier. Évidemment, hier, tout le monde avait les yeux tournés vers la coroner Jeanne Kamel qui présentait son rapport. Elle l'avait déposé un peu plus tôt cette semaine. Elle l'avait mis en ligne, mais sans avoir de commentaires. Hier, il y avait une conférence de presse qui a duré plus d'une heure et qui a été vraiment très, très éloquente sur ce que pense Mme Kamel de la gestion des CHSLD durant cette première vague de COVID-19 qu'on a connue il y a 2 ans, et notamment sur ce qui s'est passé au CHSLD Heron, qui était, ou qui est en quelque part, une espèce de symbole de la mauvaise gestion, ou en fait de ce qu'on a, de la vision qu'on avait, tiens, de la gestion des CHSLD chez nous. Et ce qu'elle dit, c'est qu'à Heron, les gens ont failli, c'est ce qu'elle a dit hier, notamment une phrase qui est assez importante que j'ai retenue lors de cette conférence de presse. Elle dit que les aînés les plus vulnérables ont été dans l'angle mort de la société lors de la première vague de COVID-19. Et elle écorche particulièrement le gouvernement sur la gestion du CHSLD Heron, où elle dit que des gens se sont lancés la balle, personne n'a pris la situation en charge, que ce soit le ministère, que ce soit les propriétaires de Heron ou encore le CIUSSS. Elle dit durant la conférence de presse hier que pendant qu'on se renvoyait des courriels puis qu'on consultait les avocats, ben il y a des gens qui mouraient. À Heron, on sait qu'il y a eu 47 décès liés à la pandémie là-bas, c'est énorme. Et donc, elle a été extrêmement sévère à l'endroit des gestionnaires, oui, du CHSLD Heron, mais aussi du CIUSSS et du gouvernement. Elle a dit qu'il fallait, à un moment donné, prendre la responsabilité de ce qui s'est passé là-bas. On va avoir avec nous un peu plus tard le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui va réagir justement au dépôt de ce rapport-là hier et des 23 recommandations qui ont été faites par la coroner Kamel. Et donc, on a déjà dit hier, Mme Blais l'avait dit avant-hier, M. Dubé l'a redit hier, qu'on va mettre en action ou en œuvre les recommandations de la coroner Kamel, mais il reste que c'est un rapport qui est assez accablant. Puis elle n'est pas douce non plus à l'égard de Daniel Paré, qui était le président directeur général du CIS de Chaudière-Appalaches lors de cette première vague. Et il y avait eu un problème d'insalubrité notamment et de maltraitance au manoir Liverpool. Et dans sa conférence de presse, Mme Kamel hier a dit qu'elle ne croyait pas le monsieur Paré, en fait, qui était, comme je le disais, PDG du CIS là-bas, quand il a dit qu'il n'était pas au courant de la situation au manoir Liverpool. Il avait témoigné de ça à la conférence, à l'enquête du coroner, de la coroner, et a dit « Pour moi, c'est impossible qu'il n'ait pas été au courant. Si effectivement il n'était pas au courant, on a un sérieux problème. » On va poser ces questions tout à l'heure au ministre Dubé qui sera avec nous. Bon, il y a plein d'autres choses dans les quotidiens ce matin. Entre autres, moi, je trouve ça intéressant, la décision qu'on a prise dans cette école secondaire, l'école secondaire Robert Gravel dans le Mile End, qui a décidé d'adopter un tout nouveau code vestimentaire non genré. C'est ce que nous apprend Ariane Kroll ce matin dans la presse. Vous savez, il y a toujours cette fameuse question, qu'est-ce que, entre autres, les filles ont le droit de porter ou pas à l'école? Les jupes trop courtes, les bretelles spaghetti, etc. Il y a des codes de vestimentaire qui existent dans plusieurs écoles. C'est pas tous les mêmes. Et donc, là-bas, on a décidé de mettre fin à ça, de toute cette tergiversation. On a dit, écoutez les filles, faites ce que vous voulez, les gars aussi, c'est non-genré, là, gars ou filles. Habillez-vous comme vous voulez, en autant que ça respecte quand même certaines limites. Les sous-vêtements, les parties intimes ne doivent pas être visibles. Le couvre-chef doit rester dans le casier. Et on ne doit pas avoir non plus d'inscription sur les vêtements qui soient discriminatoires, caractère sexuel ou violent. Alors, le reste, là, faites ce que vous voulez ou à peu près, mais en autant que ça respecte un certain décorum. Donc, il n'y aura plus de police des vêtements là-bas. On avait commencé à enlever ces fameux codes vestimentaires. Faut dire que là-bas, il y a une situation qui est assez qui est particulière dans cette école-là, un petit établissement de 465 élèves qui a un historique. En 2016, les élèves avaient accroché leur soutien-gorge au casier pour protester contre l'obligation du port de sous-vêtements qui était jugé sexiste. Alors, c'est, je pense, une première école qui a une vision assez avant-gardiste de la façon, justement, de gérer ces problèmes-là. Alors, on verra de quelle façon ça va se répercuter dans l'ensemble des autres écoles du Québec. Mais c'est une situation qui est assez particulière. Et si c'était pas si dommage ou enrageant pour les automobilistes, on pourrait en rire, mais On va devoir refaire complètement l'asphalte d'une partie de l'autoroute métropolitaine entre le chemin Kenora et Côte-de-Liesse parce que l'asphalte qu'on a installé l'année passée, à peu près au printemps, à peu près à cette période-là, il y a un an, est de mauvaise qualité. Le bitume a été jugé de mauvaise qualité par des expertises qui ont été faites par le ministère des Transports. On s'est rendu compte que ça faisait une espèce de phénomène de mouillage ou de ressuage, c'est le mot qu'on utilise là, qui fait en sorte que le bitume remonte. Il y a de l'huile qui remonte à la surface, ça a l'air mouillé et il y a des enjeux de sécurité, dit-on. Alors, on va devoir complètement enlever l'asphalte et reposer du nouveau bitume de meilleure qualité. Ça va coûter 10 millions de dollars. Le ministère des Transports dit que ça va se faire aux frais de l'entrepreneur Roxborough Excavation, parce qu'ils avaient failli, n'est-ce pas, au cahier de charge. Mais il y a des experts qui disent, ben là, ça se peut pas que ça se fasse à coup nul. Et est-ce qu'on n'aurait pas dû également surveiller la qualité d'asphalte qu'on posait à ce moment-là? On sait que les entrepreneurs sont souvent laissés à leur propre auto-évaluation. S'il y avait eu des vérificateurs, justement, qualifiés du ministère des Transports pour aller voir le type d'asphalte qu'on installait, ben peut-être qu'on n'en serait pas rendu là et que ça coûterait pas aussi cher puis qu'on viendrait pas non plus venir enfantianiser, disons ça comme ça, la vie des automobilistes dans le secteur au cours de l'été.
L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
Les aînés les plus vulnérables ont été dans l'angle mort de la société lors de la première vague de pandémie de COVID-19. C'est une des conclusions de la coroner Jeanne Kamel qui a présenté hier son rapport d'enquête sur ce qui s'est passé dans les CHSLD durant la première vague de COVID-19. Le rapport écorche particulièrement le gouvernement sur sa gestion du CHSLD Heron. Alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, est avec nous. Bonjour, M. Dubé.
Oui, bonjour, M. Lacroix.
Elle n'a pas été douce avec vous, Mme Kamel, hier, là, avec, entre autres, particulièrement, en tout cas, sur Erin.
Oui.
Où elle dit que le CIUS ne peut pas se dégager de sa responsabilité, ni le ministère. Est-ce que vous prenez votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé là-bas?
Tout à fait. Écoutez, premièrement, je veux saluer le travail très rigoureux qu'elle a fait, parce que ça fait longtemps, là, on a eu plusieurs études, mais on attendait celle-là. J'ai toujours dit qu'elle devait faire son travail, puis... D'ailleurs, il y a plusieurs des recommandations, M. Lacroix, qu'elle fait, qui sont déjà en place. Parce qu'on a agi à partir de la première vague. Vous vous souvenez le rapport que j'avais déposé, le plan de la deuxième vague. Donc, oui, on prend acte, puis effectivement, je pense qu'on... Il y a plusieurs personnes qui ont leur tort dans cette gestion-là, puis je pense que les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est qu'on passe à l'action, fait qu'on est là présentement.
Et elle parle aussi de plus, comment dire, de responsabilité de la part des dirigeants. Bon, là, Mme McVeigh, elle, qui était à la tête du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, a été démissionnée là cette semaine. Elle a dit qu'elle renouvelle pas son contrat, mais on comprend là que c'est... on lui a demandé de partir, n'est-ce pas?
Ben écoutez, je pense que... Elle a pris une décision difficile. Je pense que les faits étaient là. Puis je pense que... Moi, je salue sa décision d'avoir pris la décision de se retirer.
OK. Je veux qu'on évacue tout de suite la question de Daniel Paré.
Très bien. Parce que
l'autre pan de ce rapport-là, ou en fait de cette présentation hier, où Mme Kamel a été très critique à l'égard des dirigeants, c'est Daniel Paré, qui était à l'époque dirigeant du CIS de Chaudière-Appalaches. Et il y avait eu des cas de maltraitance et des cas d'insalubrité au manoir Liverpool. Et lui, quand il est passé, il a témoigné devant la coroner Kamel, il a dit qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Et Mme Kamel ne le croit pas. Elle a dit hier que selon elle, là, un dirigeant devrait savoir ce qui se passe dans un établissement, surtout quand les faits sont aussi accablants. Vous le croyez, M. Paré, quand il vous dit qu'il n'était pas au courant?
Je veux juste remettre les choses en compte. D'abord, je ne questionnerai jamais le jugement et la décision de la coroner. Elle a dit ce qu'elle a dit, puis on le respecte. Par contre, il y a juste une chose que je veux préciser, c'est que lorsqu'il y a eu les faits qu'on a été mis au courant, puis moi, je venais d'arriver là, au gouvernement, à la santé à ce moment-là, j'ai demandé une enquête sur le manoir Liverpool.
Oui.
Et justement, l'enquête a blanchi M. Paré sous le principe qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Alors, si aujourd'hui, la coroner, puis moi, on aura la chance d'en parler avec elle, si elle a des nouveaux faits qui fait qu'elle doute de ce fait-là, ben on le regardera. Mais je rappelle qu'il y a déjà eu une enquête qui avait blanchi M. Paré. Puis, une chose que je pense que les Québécois comprennent, puis j'ai fait déjà quelques changements importants là, depuis ce temps-là, à certains PDG, entre autres, mais je voudrais dire qu'on avait vraiment une difficulté dans la fluidité de l'information. Vous allez voir, encore une fois, on veut rajouter maintenant un gestionnaire pour chacun des établissements parce que, effectivement, moi, je l'ai vécu dans les premiers mois de la pandémie, l'information circulait pas. Puis, à chaque fois, j'ai le même enjeu en ce moment d'un canton de l'Est. Ou quand j'apprends de l'information, je dis comment ça se fait qu'on n'a pas été mis au courant de ça, ben je pose des gestes en conséquence. Alors, si la coroner a des nouveaux faits, on va pouvoir en discuter, mais pour le moment, moi, je respecte la décision.
Parce que vous comprenez qu'aux yeux des Québécois, quand on regarde ce qui s'est passé au CHSLD Heron, où Mme McVeigh a été remerciée, puis là, après ça, tu regardes du côté de ce qui s'est passé au manoir Liverpool, qui était l'autre cas où on disait, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. M. Paré, non seulement n'a pas été démissionné, il y a eu une promotion, il est devenu directeur national de la campagne de vaccination.
Oui, mais ce que je vous dis, M. Lacroix, là, je veux pas faire le procès des deux aujourd'hui. Je crois que les faits sont très différents dans l'information qui était connue des deux gestionnaires. Dans un cas, c'était très clair. Là. Vous avez vu, on a pris connaissance des appels que Mme McVeigh a fait au 911. On n'est pas du tout dans la même situation que Daniel Paré. Mais, je le répète, si jamais il y a des faits qui sont nouveaux par rapport à l'enquête que j'avais commandée sur Liverpool, ben moi, j'en prendrai acte. Mais pour le moment, c'est les faits que j'ai. Okay. Puis, je suis prêt à reviser ma décision s'il y a des faits nouveaux.
Sur Heron, Madame Kamel dit que pendant qu'on s'envoyait des courriels puis qu'on consultait les avocats puis qu'on se téléphonait puis tout ça, il y a des gens qui mouraient et qu'il n'y avait pas de soins à Heron. Ça a été une phrase très très dure hier un constat très dur qu'elle a fait hier durant sa préparation. Et une de ses recommandations, c'est de dire justement, il faut que l'information se rendre rapidement à la base.
Ouais.
Qu'est-ce que vous allez faire pour que ça change, ça, pour que quand vous donnez une directive, qu'elle soit appliquée, mais rapidement, puis qu'on n'ait pas nécessairement besoin de remonter jusqu'au ministre pour qu'on prenne une décision sur le terrain?
Ça, vous avez absolument raison. Puis elle a été très claire aussi que les propriétaires ont des torts importants dans ça. Là. Je pense que tout le monde est à tort dans cette affaire-là.
Ouais.
Maintenant, vous savez que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris pas mal de décisions depuis quelques mois là, sur des changements de PDG. Mais je vais avoir encore des éléments nouveaux dans les prochaines semaines. On a parlé beaucoup de décentralisation.
Ouais.
Décentralisation, ce que ça veut dire, c'est, entre autres, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises localement. C'est pas normal d'être obligé d'appeler un 911 pour appeler la police parce qu'on n'est pas capable de régler un différend avec un gestionnaire de CHSLD. Ça n'a pas de bon sens.
Mais est-ce que c'est aussi normal qu'on soit obligé d'appeler au bureau du ministre pour prendre une décision sur un CHSLD? C'est pas normal.
C'est pas normal, mais quand je vous dis, je pense que les gens dans les... moi, je veux ramener une gestion de proximité. Il y a beaucoup de cadres, on chiale souvent contre les cadres, mais il y a beaucoup de cadres qui ont été congédiés dans la réforme Barrette. Puis moi, je pense qu'il faut en ramener pour que, justement, des décisions soient capables d'être prises par des gestionnaires localement. Et ça, c'est pas besoin de monter jusqu'au sous-ministre ou au ministre pour prendre des décisions. C'est ça, la gestion locale. Ouais. Alors, dans les prochaines semaines, vous allez voir, Mme Savoie est en train de finaliser le rapport que je lui ai demandé là, pour améliorer la gestion. Ben là, vous allez voir des annonces importantes dans ça.
Il y a 23 recommandations dans le rapport de la coroner. Est-ce que les 23 vont être respectés par votre gouvernement?
La réponse est oui. Il y en a une, cependant, qu'on questionne comment l'échéancier, c'est la privatisation des CHSLD.
Les autres. Là, on parle des CHSLD privés non conventionnés en CHSLD privés conventionnés.
Alors là, en ce moment, on en fait trois. On avait pris l'engagement qu'on en ferait. Je vous cacherai pas que c'est très dispendieux, mais c'est pas une question de coût. Il faut regarder comment faire ça, puis à quelle vitesse. Il y en a, il faut rappeler qu'il y a des CHSLD privés qui font un très bon travail. Alors, en ce moment, la priorité, c'est pour ceux qui étaient, je vais le dire comme ça, moins bien gérés. Mais c'est à peu près la seule recommandation qu'on n'aura pas un échéancier aussi rapide, parce que j'ai dit, il y a déjà...
Mais vous allez le faire quand même.
On va le faire quand même, mais on a décidé de le faire cas par cas. On a commencé par trois, on s'ajuste, on regarde comment on fait. Mais l'intention, c'est de s'assurer que les mêmes conditions que les aînés connaissent dans des CHSLD privés, qu'ils soient conventionnés ou pas, soient les mêmes, soient les meilleurs qu'on soit au niveau des CHSLD publics.
Il y a beaucoup de choses dans cette présentation-là. Hier, M. Ramsey le coroner associé,
ouais.
Lui a dit que c'est pas normal que quelqu'un qui travaille dans un CHSLD gagne moins cher que quelqu'un qui sert du café chez Tim Hortons. J'enlève rien aux gens qui servent du café chez Tim Hortons, ouais. Là. Mais le travail, je pense, est plus important quand on est dans un CHSLD et on s'occupe des humains, de la santé des humains. Je sais qu'il y a eu des primes, etc. Puis il y a une partie de ces primes-là qui s'en vont, là. Comment vous allez vous assurer d'avoir une rétention importante?
D'ailleurs, il y a raison. Là. Je pense que le travail qui est fait dans un Tim Hortons, c'est important. Mais je pense que s'occuper des gens...
C'est lui qui a amené l'exemple du Tim Hortons en passant.
Non, mais c'est ça. Ouais. Mais deux choses là-dessus. Rappelez-vous, oui, il y a eu des primes, mais on est quand même le gouvernement qui a fait deux choses. On a rajouté 10 000 préposés aux bénéficiaires qui sont particulièrement dans les CHSLD. On a fait
ils ne sont pas tous restés, cependant.
Non, mais écoutez, à 85 %, c'est quand même beaucoup après un an et demi. Là. Durant une pandémie, je pense qu'on peut être satisfait du taux de rétention. On a rajouté, puis deuxièmement, on a augmenté leur salaire de façon significative, pas juste par les primes. Là. On a augmenté leur salaire d'au moins 15 %. La troisième chose qui reste à faire, c'est de s'assurer que ces gens-là vont travailler dans un environnement meilleur. Et là, c'est là que les infrastructures viennent en jeu. Plus on améliore l'environnement de travail où ils peuvent travailler, plus les gens restent. On le voit dans les grands hôpitaux, on va le voir dans la maison des aînés. Moi, je pense qu'on est déjà en avant de ces recommandations-là.
Deux petites choses encore. Madame Kamel parle d'un deuxième tour de roue. C'est-à-dire qu'elle dit que face aux conclusions et de la commissaire à la santé, Mme Castonguay, ouais. Vérificatrice générale, la protectrice du citoyen et ce qu'elle a présenté comme conclusion elle aussi, le gouvernement doit faire un deuxième tour de roue et s'assurer là justement d'avoir une communication, notamment pour les familles des victimes ouais. des CHSLD. Vous allez faire quoi, là? Elle va pas jusqu'à dire ça prendrait une enquête publique. Elle dit que c'est pas son mandat de recommander ça. Mais elle demande quand même, est-ce que vous fassiez quelque chose?
Ben écoutez, je vais vous dire pour ma part, là, à la santé, en ce moment, au ministère de la Santé, c'est de mettre en pratique ces recommandations-là. Ça, c'est la première chose à faire, parce que les rapports, c'est beau, mais elle a bien dit, j'espère que ça sera pas sur une tablette. Moi, je peux lui dire, ça sera pas sur une tablette, on les met en place. Du côté du bureau du premier ministre, je pense qu'ils sont en train de réfléchir à quel genre de suivi va se faire, parce que je pense que on est tous conscients de la difficulté que vivent encore des familles face aux décès qu'ils ont connus dans ça. Puis je vais laisser au bureau du premier ministre là,
Mais votre recommandation au bureau du premier ministre, c'est quoi? Est-ce que c'est de faire, je sais pas moi, des états généraux, par exemple, sur les CHSLD? Est-ce que ça pourrait être... qu'est-ce que ça peut être? Sous quelle forme ça peut se faire?
Je vais vous dire, mon mandat en ce moment, là, c'est livrer un environnement correct pour ces gens-là.
Ouais.
Il y a trois rapports, vous l'avez bien dit, puis en plus avec la vérificatrice générale. Moi, je vous dis, je livre en ce moment un meilleur environnement pour les patients qui sont et dans des CHSLD ou, par exemple, dans des RI, des ressources intermédiaires.
Ouais.
C'est ça qui est... Et c'est ça, je pense, que les Québécois veulent qu'on tourne la page, qu'on respecte, qu'on paie notre respect à ces gens-là qui ont vécu des horreurs. On en est tous conscients. Mais en même temps, moi, ma job, c'est de livrer la marchandise à ces trois rapports.
Ça m'amène à vous poser une question, parce que la question vous avait été posée par Paul il y a quelques semaines.
Okay.
Est-ce que vous allez vous représenter, M. Dubé? Vous avez laissé planer un doute la dernière fois que vous êtes passé à ce micro. Est-ce que vous allez vous représenter pour terminer, justement, votre réforme? Parce que vous dites, je veux livrer ça, mais si vous êtes plus là, est-ce que vous allez vous assurer que ça sera livré?
Monsieur Lacroix, j'y ai pensé bien comme il faut, puis la réponse est oui. J'ai pris la décision que je me représentais comme candidat à la Prairie à la prochaine élection. J'ai réfléchi longuement, effectivement, parce que je connais la hauteur de la montagne de ce qu'on a à faire.
Ouais.
Là, ça fait deux ans là, que, dans un contexte de pandémie, j'ai déposé mon plan de santé. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais avec ce que j'ai vécu, j'étais encore dans mon comté hier. J'ai pris la décision que j'allais le relever, ce défi-là. Alors, oui, j'ai pris la décision de me présenter comme candidat dans la Prairie, dans l'équipe de France.
Mais ce que j'avais compris, quand Paul vous avait posé la question, vous aviez dit, ça va dépendre comment ma réforme est accueillie.
C'était un élément...
Est-ce que ça veut dire que votre réforme est moins bien accueillie que ce à quoi vous vous attendiez?
Merci de clarifier. Je vais le clarifier. J'avais deux éléments importants à ma réflexion. Réglons le côté personnel. Je peux pas vous cacher que j'ai eu des moments très difficiles dans les deux dernières années. Ouais. Ça a un impact sur la famille. Là, je ferais pas pleurer personne avec ça. Mais je voulais prendre, comme dans toute décision personnelle, je voulais prendre le temps d'y réfléchir. Parce que quand on se commet, puis là, comme je le dis, je le sais ce que ça implique, là, les week-ends, des fois des grandes périodes très intenses. Je voulais en discuter avec ma famille, puis j'ai obtenu dans les dernières semaines le support que j'avais besoin de ce côté-là. Du côté plus professionnel, puis vous faites bien de revenir là-dessus. Ce que j'avais dit à M. Arcan, je m'en souviens, je venais de déposer mon rapport, puis j'avais hâte de voir la réponse, parce que souvent, lorsqu'on veut faire des grands changements, puis moi, je me considère comme un agent de changement, on en a déjà parlé, vous et moi, ben la première chose pour que des changements réussissent, il faut que les gens prennent conscience du problème.
Ouais.
De quelle hauteur du défi qu'on a. Et moi, je peux vous dire, depuis plusieurs semaines, puis hier, j'étais encore au CHUM, vous savez, j'aime ça être sur le terrain. Les gens sont d'accord avec cette réforme-là. Les gens sont d'accord avec, puis je devrais pas parler de réforme, de cette transition-là qu'on veut faire. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'appui dans les dernières semaines. Puis ça aussi, ça pèse dans ma décision de dire, je le dois aux Québécois de mettre ça en place. On a donné, puis on l'a vu, là, les actions et les changements qu'on a commencé à faire payent déjà. Alors, moi, je le dois à mon parti, je le dois aux Québécois, puis j'ai pris cette décision, puis je suis très, très heureux de prendre cette décision-là.
Je vais terminer avec un article ce matin intéressant dans Le Devoir, puis ça va vous ramener à ce qui s'est passé dans les derniers mois. Dans le 4-5-0, là, les jeunes médecins ne veulent pas y aller, les médecins de famille, semble-t-il. Ceux qui finissent, là, qui sortent, les nouvelles cohortes de médecins, ne veulent pas aller dans le 4-5-0. Pourquoi, au juste? Puis comment vous allez faire assurer que les services soient donnés?
Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais encore une fois là-dessus, on prend une photo à une date donnée, puis je pense que c'est en train de changer. Laissez-moi juste vous dire quelques points. Il y a eu beaucoup, là je dis un angliciste, je ne sais pas s'il y a mieux que ça, mais du docteur bashing dans les dernières années. Bon, puis je ne ferai pas le procès là, de ce qui s'est fait par l'autre administration. Moi, je suis plus dans un climat de collaboration, puis vous voyez, là avec les médecins, ça va beaucoup mieux, on négocie, puis il n'y a pas de chicane dans les journaux. Je pense que ça a eu un impact très négatif, particulièrement sur les médecins de famille. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois là, ce qu'on appelle la Fédération des jeunes médecins, des médecins résidents. Puis, ce qu'on vient d'annoncer, puis qui va être en place avec le projet de loi 11, où la prise en charge peut se faire par un groupe de médecins familial plutôt que par un jeune médecin qui arrive, je pense que ça va faire une grande différence. Alors, oui, en ce moment, il y a encore un enjeu, mais je suis pas mal certain qu'on prendrait la photo dans 6 mois ou dans 1 an, quand on aura changé la façon de prise en charge qu'on fait, que nos guichets d'accès vont permettre à d'autres professionnels de prendre en charge. Je pense que nos jeunes médecins vont revenir à la médecine.
Mais ce matin, dans cet article-là, on dit même que, parce qu'il y a des médecins qui sortent là, des universités, des nouveaux médecins, puis on les voit nulle part, ils sont pas dans le réseau, c'est comme s'ils s'évaporaient. Mais est-ce qu'ils vont priver ces gens-là? Est-ce qu'ils s'en vont ailleurs, en Ontario, par exemple?
Il y en a
d'autres
plusieurs qui prennent souvent, on l'a vu l'an dernier, puis moi j'ai questionné beaucoup ça là, avec Dr. O'Patterney, puis avec des... Il y en a beaucoup qui décident, parce que peut-être leur premier choix aurait été, par exemple, d'aller du côté d'une spécialité, qui vont prendre peut-être un an de formation en d'autres choses. Et là, c'est là qu'il faut leur montrer, effectivement, que la médecine familiale peut être valorisé. On a dit qu'on allait renégocier à partir du mois de mars prochain la façon dont les médecins de famille sont rémunérés. On a parlé beaucoup de la capitation là, pour la prise en charge. Je pense qu'il reste des choses à faire pour les attirer à continuer d'être intéressés, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui prennent leur retraite. Et ça peut inquiéter plusieurs. Mm. Alors, il y a plusieurs éléments, puis je pense que ce qu'on est en train de négocier avec la FMOQ va faire une grande différence dans les prochaines semaines.
M. Dubé, merci d'être passé chez nous.
Ça fait plaisir.
Et bonne chance pour la prochaine campagne électorale.
Merci. Oh, je suis certain qu'on va s'en reparler, M. Lacroix.
Oui, je suis convaincu.
Merci beaucoup.
Christian Dubé est le ministre de la Santé.
L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
Alors, si c'était pas si enrageant pour les automobilistes, on en rirait, mais un an après avoir été asphalté, il y a un tronçon de l'autoroute métropolitaine entre le chemin Canora et Côte-de-Liesse qui va devoir être repris, mais complètement. On va être obligé d'enlever l'asphalte pour remettre du bitume par-dessus. On dit que ça va coûter 10 millions, mais que ça ne coûtera pas un sou aux contribuables québécois, n'est-ce pas? Fadi Moubayed est le directeur général de la région de Montréal pour le ministère des Transports. Bonjour, M. Moubayed.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là, finalement? C'est de l'asphalte flambant neuf qu'on est obligé d'enlever.
Effectivement, c'est dans le cadre du programme de maintien des actifs sur l'autoroute métropolitaine. On sait que l'autoroute métropolitaine va faire l'objet d'une intervention majeure au cours des prochaines années pour y donner une vie, prolonger sa durée de vie. Mais en attendant ce grand projet-là, il y a un programme de maintien des actifs qui consiste à faire des inspections et des travaux en continu, autant sur le dessus que sur le dessous.
Ouais.
Dans le cadre de ce programme-là, il y a un contrat qui a été accordé à l'entreprise Roxboro Excavation en 2019 pour des travaux de réparer la dalle de béton de l'autoroute et aussi remplacer l'asphalte sur le tronçon complet entre Provencher dans l'Est et l'autoroute 520 complètement dans l'Ouest de Montréal.
Okay.
À la fin de l'été, les travaux ils ont commencé en 2019, il y a eu des travaux en 2020, 2021, et les travaux devraient se terminer en 2022. Presque 90% du contrat est exécuté. À la fin de l'été 2021, dans le secteur Est, le ministère a constaté ce qu'on appelle dans le jargon du ressuage. C'est comme si l'asphalte, il y a des flaques d'eau sur l'asphalte ou des taches d'eau sur l'asphalte, ce qui n'est pas normal.
Donc, et c'est quoi ça? C'est l'huile qui remonte à la surface, c'est ça?
Effectivement, c'est le bitume parce que l'asphalte est composé de roches, de pierres concassées et ce qui garde tout ça ensemble, c'est le bitume. Donc, quand il fait très chaud, le bitume, il devient un peu plus liquide et il prend de l'expansion. Fait que s'il n'y a pas de place dans l'asphalte, il va remonter en surface. Et c'est ça que ça fait comme des petites taches d'eau là en surface. Okay.
Mais
donc, oui.
Donc, vous avez remarqué ça à la fin de l'été 2021 en faisant une inspection. Comment ça se fait que vous ne l'avez pas vu quand ils ont mis le béton, le bitume? Pourquoi vous ne l'avez pas vu au départ?
Parce que c'est quelque chose qui sort seulement à la quand la température est chaude. Il faut qu'il fasse très chaud. Et l'été passé, au mois d'août, il a fait très chaud. Donc, c'est là seulement que ça s'est apparu en surface. Maintenant, une fois qu'on a trouvé, on a fait ce constat-là, on a immédiatement procédé avec des prélèvements par échantillonnage. Donc, on a fait des carottages dans la surface, on a envoyé ça en laboratoire. Et quelques semaines plus tard, les résultats sont arrivés et le verdict était à l'effet que le bitume, c'est donc la partie goudron là, dans cette mélange d'asphalte de bitume et de pierre, ouais, était de qualité inférieure à celle qui okay. est prévue au devis.
Mais Monsieur Moubayed, ma oui. question là, c'est vous l'avez vu là, vous avez fait un prélèvement, puis là vous êtes allé en laboratoire, puis là vous avez regardé la qualité du bitume pour venir à la conclusion que le bitume n'était pas de la qualité qui est acceptable pour le ministère des Transports. Mais pourquoi vous faites pas ces tests là avant d'installer l'asphalte? Il me semble que ce serait plus productif.
Regardez, le contrôle, là, il y a plusieurs étapes dans le contrôle de la qualité de l'asphalte. Premièrement, c'est que les usines d'asphalte sont normalement ISO 9001, sont responsables de la qualité de leurs produits.
Ouais.
Maintenant, le ministère, malgré que ces entreprises-là sont responsables de la qualité, fait des essais, fait le contrôle de qualité. Il y a même une firme qui est mandatée par le ministère pour faire le contrôle de la qualité.
Mais là, apparemment, ils ne l'ont pas fait, là.
Tout a été fait selon les règles de l'art. Donc, il y a eu des tests avant. Il y a eu des tests sur la qualité des enrobés a été fait avant.
Ouais.
La qualité des ingrédients de l'enrobé a été fait avant. Pendant les travaux, il y a eu des tests qui ont été faits et des contrôles à la fin pour vérifier la performance du produit. On comprend que les ingrédients qui rentrent dans le mélange sont testés avant le mélange. Une fois que tout est mélangé, on va contrôler la qualité du produit qui est mélangé. Il est excessivement difficile, une fois le tout est mélangé, de séparer le bitume des ingrédients de l'asphalte. Donc, il y a de la poussière, il y a de la contamination qui peut rentrer dedans. Donc, aller chercher le bitume, une fois tout mélangé et posé, c'est extrêmement difficile. C'est faisable, mais c'est extrêmement difficile et c'est pas courant.
Mais vous dites que c'est faisable, est-ce qu'on devrait pas le faire? Parce que il y a la facture de 10 millions. Je comprends que c'est Roxboro Excavation qui va le payer, là. Je comprends ça. Mais il y a quand même, il va y avoir des inconvénients, là, pour les automobilistes. Je comprends qu'il y a des mesures de mitigation, etc. Mais si on faisait ça avant, on avait un meilleur contrôle, ça permettrait d'éviter des situations comme celle-là.
Ben absolument, vous avez entièrement raison. Le ministère, il y a un processus d'amélioration en continu de ces procédures. Et là, il est arrivé quelque chose d'absolument extraordinaire qui n'a jamais été vécu auparavant. Donc, c'est sûr que le ministère va tirer des leçons de cet événement-là et il va ajuster ses procédures maintenant en fonction du risque d'un tel événement. Et de toute façon, même avant l'événement, il y avait déjà, le ministère était en préparation pour modifier complètement ses exigences, sa norme. Il va mettre une nouvelle norme québécoise pour les enrober. Et cette norme-là était déjà en préparation. Et d'ici 2023, elle va être en vigueur, cette norme-là.
Mais M. Moubayed, vous dites que c'est l'entreprise, en fait, qui s'auto-évalue. Là. Ils ont une norme ISO, puis ils doivent respecter certains standards, puis ils s'auto-évaluent. S'il y avait eu des ingénieurs du ministère des Transports qui étaient passés, puis qui avaient fait le travail d'évaluation, plutôt que de laisser l'entreprise faire son propre bulletin, est-ce qu'on aurait évité cette situation-là, à votre avis?
Ben, il y a déjà des ingénieurs qui font ce travail-là. Ces ingénieurs-là sont des firmes mandatées par le ministère. Ils font se préparer le contrôle, faire les contrôles et faire l'après-contrôle. Donc, il y a déjà des ingénieurs qui font ce travail-là. Maintenant, c'est comme on dit, c'est le trou dans la gruyère, là. C'est le phénomène du fromage perforé. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs éléments qui se sont arrivés et on fait en sorte que malheureusement, c'est quelque chose qui ne devait pas arriver, mais est arrivé. Malgré tous les contrôles sont en place, malgré toute la vérification qu'on fait, c'est arrivé. On va tirer des bonnes leçons là-dedans. Et ce qui est heureux là-dedans, c'est que l'entrepreneur, il a très bien collaboré avec le ministère, il a fait ses propres démarches d'enquête, il a reconnu son erreur. Il nous a même écrit une lettre reconnaissant sa responsabilité. On a négocié une entente avec, qui, à mon avis, répond très bien pour corriger la situation. Okay. Tout le pavage va être dans le secteur ouest, va être refait. Dans le secteur est, il y a une garantie de performance du pavage qui va nous être livrée par l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur va nous garantir pour 5 ans la bonne durabilité du pavage dans le secteur est. Là, on parle de Provencher jusqu'à Saint-Laurent.
Ça veut dire que Roxboro Excavation va encore avoir des contrats du ministère des Transports. Il n'est pas barré, là.
Écoutez, Roxboro Excavation, ce contrat-là, il a été donné par appel d'offres public. Ouais. Il a suivi tout le processus très rigoureux de l'octroi des contrats, toutes les vérifications nécessaires. Roxboro Excavation, c'est une entreprise légale. Il y a tous ses permis, toutes ses autorisations. Donc, effectivement, Roxboro, c'est un entrepreneur qui est aujourd'hui un joueur majeur dans la région. Le ministère doit se conformer à la loi sur les contrats publics et le ministère y a procédé par appel d'offres et le contrat y a été octroyé au plus bas soumissionnaire qui était à l'époque en 2019 Roxboro Excavation.
M. Moubayed, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. Fadi Moubayed est directeur général de la région métropolitaine de Montréal pour le ministère des Transports.
L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
Bon, évidemment, c'est un long week-end de la fête des Patriotes et l'Agence des services frontaliers du Canada se prépare, n'est-ce pas? Un fort achalandage aux différents postes douaniers terrestres. En fin de semaine dernière, il y avait presque personne. Je vais vous dire honnêtement, là, même au retour, il y avait à peu près personne. Mais là, ça va être différent. Éric Paradis est directeur intérimaire du district Montérégie pour l'Agence des services frontaliers du Canada. Bonjour, Monsieur Paradis.
Bonjour, Monsieur Lacroix.
Alors, comment on se prépare, justement, à ce long week-end? Vous attendez-vous à des files importantes?
Bien, historiquement, c'est un week-end qui est très achalandé. Là, c'est sûr qu'on a perdu un peu nos repères au cours des dernières années, mais si on remonte à 2019 et les années précédentes, c'est un week-end qui va être très achalandé. C'est ce à quoi on se prépare.
OK. Vous vous attendez à des attentes de combien de temps? Est-ce que vous êtes capable de l'évaluer?
C'est difficile à évaluer cette année parce qu'on est en période de reprise. On a vu des week-ends où on s'est retrouvé à 70% des volumes d'il y a 3 ans, d'autres à 80%, puis d'autres plus faibles, comme vous l'avez vous-même mentionné.
Ouais, sauf que là, il y a presque plus de contraintes là, à la frontière. Là. Ça entre relativement vite. Comment ça se fait que quand on sort du Canada, ça prend quelques minutes seulement. On arrive à, par exemple, au poste frontière américain, là, parce que c'est eux qui font la vérification quand on va aux États-Unis. C'est jamais, ça prend toujours quelques minutes, 2-3 minutes. Puis quand on revient, c'est toujours plus long. Pourquoi c'est plus long chez nous que quand on va aux États-Unis?
Bien, c'est que c'est difficile d'avoir les mêmes repères. Quand vous débutez votre week-end, l'achalandage va certainement être différent. Vous, vous allez voir l'achalandage quand vous revenez au Canada à votre retour. Les gens partent à des heures aléatoires pour se rendre aux États-Unis,
ouais.
Mais souvent, les gens reviennent tous à la même heure quand ils veulent revenir au Canada. Fait que c'est ce qui se produit. Il y a aussi, évidemment, il y a la contrainte ArriveCan qui existe. Et comme les gens ne complètent pas tous l'application, ça rajoute au délai d'attente.
Okay. Ça, c'est important de le mentionner, parce que si vous remplissez pas ArriveCan, l'application sur votre téléphone, vous allez avoir des problèmes à frontière. Ça va être plus long. Hein? Qu'est-ce qui arrive, mettons, là, que je n'ai pas rempli cette application-là?
Bien, écoutez, il y a des règles qui changent d'un endroit à l'autre. Mais c'est pas la règle qui change. Faut comprendre qu'on a des volumes différents d'un bureau à l'autre. Présentement, moi, je vous parle à partir du bureau de Lacolle Route 15.
Ouais.
Mais dans mon secteur de la Montérégie, il y a 15 points d'entrée. Dans un petit point d'entrée, une personne qui n'aura pas complété son application ArriveCan et qui n'a pas de véhicule derrière lui, il est possible que l'agent l'accompagne pour la complétion de ArriveCan si ça n'a pas été fait. Par contre, dans un gros point d'entrée comme celui de Lacolle, pour une personne qui n'a pas complété son application ArriveCan, ben à ce moment-là, ça va lui prendre un test pré-arrivé, un test au jour 1 de la quarantaine, un test au jour 8 de la quarantaine et au total 14 jours de quarantaine. C'est
ah
donc
oui.
Extrêmement important de compléter l'application ArriveCan. Puis si vous permettez, okay. M. Lacroix,
ouais.
Faut d'une part compléter le profil dans l'application ArriveCan, si on peut faire ça longtemps d'avance. Mais pour chaque voyage et chaque séjour à l'étranger, il faut compléter l'onglet pour le voyage en particulier. Il faut surtout pas oublier de télécharger sa preuve de vaccination dans l'application.
OK. Donc, ça veut dire que si vous remplissez pas cette fameuse application-là, vous êtes considéré comme soupçonné, en fait, d'avoir la COVID. Vous allez devoir vous mettre en quarantaine, devoir présenter des preuves que vous n'avez pas la COVID en revenant, c'est ça?
Oui, ben vous allez vous placer en quarantaine parce que vous n'avez pas été en mesure de démontrer à la satisfaction de l'agent des services frontaliers que vous êtes exempt de COVID.
OK. Mais ça, là, ArriveCan, là, c'est une application qu'on a sur un téléphone intelligent. S'il y a des gens qui n'ont pas de téléphone intelligent, moi, ma mère n'a pas de téléphone intelligent. Alors, elle fait quoi, elle, si elle revient des États-Unis en voiture?
L'application peut être complétée jusqu'à 72 heures avant le passage à la frontière. Donc, on peut accompagner cette personne-là. Il y a aussi un site web qui est disponible pour une personne qui n'aurait pas de téléphone intelligent, qui serait quand même en mesure d'aller compléter toute l'information. Mais comme je vous dis, on peut porter assistance à ces gens-là en autant que c'est fait dans les 72 heures. Et la règle du 72 heures est importante, là, dans les 72 heures précédant le passage à la frontière.
OK. Alors, donc, il faut prévoir énormément de temps à la frontière. Il faut se préparer à ça. Et d'ailleurs, quand vous remplissez ArriveCan, il y a une heure approximative à laquelle vous allez traverser la frontière qui est demandée, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi la meilleure période, à votre avis, pour revenir? Lundi?
Mais moi, j'encourage les gens à consulter le site web www.canada.ca et d'aller à l'onglet voyage.
Okay.
On peut consulter les temps d'attente à la frontière pour les grands postes frontaliers, les principaux, comme ceux de Stansted, Saint-Armand et Lacolle pour le Québec, là, à la frontière terrestre.
Est-ce qu'on est mieux passé par un petit poste frontière ou c'est plus rapide parce qu'il y a plus de ressources, j'imagine, à Lacolle?
Oui, clairement. Mais si je vous dis aujourd'hui que c'est mieux de passer par un petit point d'entrée, tout le monde va s'en aller là,
ouais.
Et il va avoir des heures d'attente appréciables.
On va déplacer le problème, dans le fond.
Ben, c'est ça. Donc, ouais. Moi, ce que je vous dis, c'est choisissez la route la plus courte, mais prévoyez,
ouais.
D'une part, de la patience. D'autre part, choisissez l'heure d'arrivée. C'est sûr, M. Lacroix, que si on passe en début de soirée ou en toute fin d'après-midi, au dernier jour d'un long congé, il va y avoir de,
ouais.
Longues files d'attente. Fait que des fois, de planifier adéquatement et de faire les consultations appropriées, ça, mmh. Aide énormément. L'autre chose,
oui.
Ce serait bon de préparer vos reçus pour les achats que vous avez faits aux États-Unis. En fait, tout ce qui peut accélérer ou contribuer à votre préparation au passage va raccourcir le temps pour votre passage, mmh. Pour celui de tous les autres.
Alors, les reçus, par exemple, si vous avez acheté des souvenirs ou quoi que ce soit, pendant 3 jours, vous avez droit à quoi? C'est 700 quelques dollars, c'est ça?
Pour plus de 48 heures, c'est 200 $.
200 $, oui.
C'est ça. Et 7 jours ou plus, c'est 800 $ d'exemption.
800 $. Monsieur Paradis, merci et bon week-end achalandé.
Ça fait bien plaisir. Oui, ça va être occupé, mais c'est pas grave. On se prépare adéquatement.
D'accord. Éric Paradis, directeur intérimaire du district Montérégie pour l'Agence des services frontaliers du Canada.
L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
C'est 23.